Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi, en rappel les mardis 16h, sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 24 mai 2024. 9 organisations syndicales et communautaires représentant plus d'un million de citoyennes et citoyens du Québec saluent le projet de loi C-64 du gouvernement fédéral. Celui-ci vise à mettre en place un cadre devant mener à la création d'un régime d'assurance médicaments public et universel. Les organisations revendiquent également qu'une stratégie globale de financement équitable d'un éventuel régime soit mise en place rapidement. Réagissant au rapport de la vérificatrice générale du Québec en ce qui concerne la qualité des services éducatifs en petite enfance, la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec réclament du gouvernement du Québec qu'il prenne au sérieux les enjeux présents dans le réseau et qu'il mette les efforts nécessaires pour maintenir les intervenantes qualifiées en place afin d'assurer une meilleure qualité des services. La CSQ et la FIPEC-CSQ constatent par ailleurs que le rapport de la vérificatrice générale ne laisse aucun doute sur l'importance de promouvoir le réseau des CPE au sein duquel la qualité est nettement supérieure. La Ville de Québec, conjointement avec les municipalités de Stoneham et Tewksbury, de Lac-de-Lage et de Saint-Gabriel-de-Valcartier, adopte un plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels du haut bassin versant de la rivière Saint-Charles. Par cette action concertée, les municipalités souhaitent contribuer à la pérennité du principal réservoir d'eau potable de la Ville de Québec, qui alimente près de 300 000 citoyennes et citoyens. Le plan vise à préserver les milieux naturels du secteur pour assurer le maintien des fonctions et des services écologiques rendus par ces écosystèmes. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique, le collectif 1629, la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, l'émission Dignité Noire de CKIA-FM et plusieurs autres groupes présentent la projection discussion du documentaire African Glory du réalisateur Thierry Bugeaud. L'activité a lieu demain samedi à 14h à l'ENAP au 555 boulevard Charest. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire sur la plateforme Eventbrite. Toujours demain, la population est invitée à participer à la grande plantation festive du parvis de l'église Saint-Roch, contribuant ainsi à rendre le parvis encore plus beau en plantant des arbustes et des vivaces. Aucune expérience préalable n'est nécessaire et tout le matériel sera fourni sur place. Des activités ludiques et éducatives seront proposées pour tous en après-midi. Cet événement est ouvert à toutes et à tous. C'est ce qui complète le bulletin pour cette saison. Nous vous retrouverons en septembre avec le début de la saison radio 2024-2025. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute et bon été à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
en toute simplicité. Je n'avais ni verrou, ni cadenas, autres que ceux du bureau où je rangeais mes papiers. Pas même un clou pour coincer mon loquet ou mes fenêtres. Je ne verrouillais jamais ma porte, ni de nuit, ni de jour. Même lorsque je devais m'absenter plusieurs jours. Même lorsque, l'automne suivant, je partis vivre 2 semaines dans les forêts du Maine. Et pourtant, ma maison était plus respectée que si elle eût été gardée par un régiment de soldats. Le vagabond fatigué pouvait se reposer et se réchauffer au coin de ma cheminée. Le littéraire pouvait se divertir avec les quelques livres posés sur mon bureau. Le curieux, ouvrant la porte de mon placard, pouvait voir ce qu'il restait de mon repas et évaluer mes perspectives en matière de dîner. Pourtant, bien que de nombreuses personnes de toutes les classes vinssent se promener du côté de chez moi, du côté de l'étang, je ne souffris d'aucune gêne importante et ne perdis jamais rien qui m'appartenait, en dehors d'un petit volume d'Homère qui arborait peut-être des dorures excessives. J'ai bon espoir qu'il soit en ce moment même entre les mains d'un soldat de notre camp. Je suis convaincu que si tous les hommes vivaient avec autant de simplicité que je vécus alors, le vol et le cambriolage seraient choses inconnues. Ils ne se produisent seulement dans les communautés où certains possèdent plus qu'ils ne leur est besoin, tandis que d'autres n'ont pas ce qu'il faut pour vivre.
Je veux des navires de paix dans nos mémoires.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la saison. On va reprendre en septembre, après la fête du travail. Et pour terminer notre saison, on aura avec nous Jacques Sénécal, notre philosophe régulier qui vient faire sa chronique mensuelle. On va terminer la saison avec le philosophe Marcel Conche. Avant ça, quelques annonces, nouvelles, lectures. Il y a aussi les oies. Ça, c'est pas des nouvelles, là, mais j'ai remarqué que les oies nous avaient quittés. Ou en tout cas, je ne vois plus d'oies. Ils sont partis vers le nord, on dirait. En tout cas, je trouve ce spectacle des oies qui nous est offert à chaque année tellement beau que ça me fait toujours un petit pincement de voir qu'à un moment donné, ils partent, ils continuent leur périple vers l'Arctique. Dans les lectures... Ah oui, puis il y a aussi la semaine dernière, la semaine dernière, le Festival de la décroissance qui s'est terminé samedi dernier, si je me souviens bien. Et c'était en collaboration avec les Amis de la Terre. On avait un kiosque sur place où on est le comité Saint-Pitié volontaire. On a parlé de Saint-Pitié volontaire, mais il y avait des gens de Sauve ta bouffe qui, d'ailleurs, ont préparé un repas ou de la bouffe. C'était vraiment bon et c'est tout ce qui était préparé, c'était tout à partir d'aliments qui allaient être jetés. C'était toute la récupération. C'est incroyable ce qu'on peut faire en récupérant. C'était délicieux. Alors, voilà pour les activités. Maintenant, dans l'actualité, j'ai quelque chose, pas beaucoup. Il y avait un article dans Le Devoir de jeudi qui a retenu ma attention sur les nanoparticules. Toxiques ou pas, les nanoparticules sont partout. Elles sont présentes dans une foule de produits, des cosmétiques aux écrans plats, en passant par les couches de bébés. C'est fou, là. Et il y en a qui sont... On ne sait pas si elles sont toxiques. C'est des particules tellement fines que c'est là qu'est le problème, c'est qu'elles peuvent percer la membrane de la cellule, s'introduire à l'intérieur de la cellule, pour dire comment c'est petit. Et... on dit les nanoparticules manufacturées, c'est-à-dire fabriquées par l'humain, sont aujourd'hui présentes dans une multitude de produits de consommation, des cosmétiques aux peintures, en passant par les vêtements et les écrans plats. Ces particules de taille nanométrique, de l'ordre du nanomètre, soit 10 à la moins 9 mètres, finissent un jour ou l'autre par être relâchés dans l'environnement. On en trouve donc partout, dans l'air, dans l'eau, dans les sédiments des cours d'eau et dans les sols, où elles sont très difficiles à détecter. La toxicité de ces nanoparticules dépend surtout de leur composition, qui ressemble beaucoup à celle des éléments qui les composent. Une nanoparticule constituée de cadmium aura les mêmes effets qu'une concentration équivalente de cadmium sous forme ionique ou métallique, souligne Kevin James Wilkinson, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal, rédacteur en chef adjoint de la revue Environmental Sciences Nano de la Royal Society of Chemistry. La toxicité varie donc d'un type de nanoparticule à l'autre. Par exemple, les nanomatériaux de silice, SiO2, qui a la même composition que le chimique, que le sable, qui sont introduits notamment dans l'alimentation, les couches de bébés ainsi que les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Et les dentifrices sont beaucoup moins toxiques que les points quantiques. Ces derniers, des nanostructures cristallisées de semi-conducteurs, sont pour la part utilisées pour la fabrication notamment d'écrans plats de télé et d'ordinateurs. Ils sont constitués de cadmium, de sélénium, entourés de sulfure, de zinc. Incroyable la chimie. En tout cas, c'est une réalité. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire à la longue, mais dans un article un peu plus loin que je vais vous lire de la chronique de José Blanchet, on parle de l'augmentation fulgurante du cancer chez les jeunes. Alors, Est-ce qu'on peut faire un lien? Je ne sais pas. Justement, parlant de décès, j'ai eu la surprise de voir qu'on annonçait la décès de Claude Villeneuve, qui était un peu notre scientifique, personne ressource sur les changements climatiques au Québec. Il a écrit beaucoup de livres sur les changements climatiques. Il était professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, si je ne me trompe pas. Et bien oui, on annonce son décès. Je l'ai vu en conférence à peu près ces temps-ci, l'an dernier. Et il semblait bien aller, mais je le trouvais un peu... Il avait l'air affaibli un peu, mais sa conférence était très, très bien. En tout cas, Claude Villeneuve, scientifique important pour ce qui concerne les changements climatiques, qui nous a quittés. Et dans le même... Dans la même veine, ben on a un texte de José Blanchet qui est assez spécial sur la mort, mourir guéri. José Blanchet a failli mourir, elle a eu un cancer jeune et puis elle est presque miraculée. Alors il n'y a pas de bonne raison, de bonne saison pour mourir. Vous prononcez le mot cancer et s'ajoute une aura de drame et d'injustice, sans compter le langage martial, le fameux combat, la bataille, alors qu'il serait plutôt question d'aimer encore davantage. Et il faut faire abstraction de ces phrases pseudo-magiques. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? Ce qui ne tue pas ne nous rend plus forts. C'est ça, elle dit que ben c'est ça. La réalité, quant à la vie, c'est une autre histoire. Puis c'est ça, un peu plus loin, on parle des cancers qui augmentent beaucoup chez les jeunes. C'est des recherches qui ont été publiées dernièrement là-dessus. On dit Nous n'avons pas terminé de voir des jeunes atteints de cancer, nous prévient une vaste étude de BMJ Oncology de 2023. 80% de plus qu'en 1990 chez les moins de 50 ans. Ce n'est pas une vague impression, c'est énorme. Là, elle donne des exemples comme connus, la princesse Kate, Carl Fringant ou Caroline, tous quadragénaires. Lundi, en préparant cette chronique, je lisais quelques livres qui m'ont aidé à traverser l'épreuve de la mort chimique de l'âme, un effet secondaire de la chimio. Lorsque j'ai appris le décès de la sociologue écrivaine, on l'a vu dans les médias, Caroline Dawson, mon cœur s'est serré, une mère ne peut se résoudre à ça. Elle a changé d'âme, m'avait dit mon dermato quand il m'a annoncé un mélanome à 41 ans. Alors, c'est dans le Devoir d'aujourd'hui, un texte de José Blanchet sur la mort. C'est dans le même journal aussi qu'on annonce le décès de Claude Villeneuve. Et dans le Devoir aussi, un autre article important que je trouve, c'est sur l'information. C'était un article dans le Devoir de mercredi 22 mai. Pour changer le monde, il faut d'abord le comprendre. Une information fiable et vérifiée porte en elle un important pouvoir de transformation sociale. C'est un texte d'André Lavoie, l'auteur et journaliste indépendant, collaborateur au Devoir et secrétaire au conseil d'administration du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Selon un sondage de la firme Léger publié en mars dernier, les journalistes ont quelques raisons d'être inquiets pour leur avenir. À peine 37% des Québécois âgés de 18 à 34 ans suivent l'actualité sur une base quotidienne, comparativement à 59% chez les 35 à 54 ans et 84% chez les 55 ans et plus. Les motifs pour expliquer ces écarts et surtout cette chute du côté des plus jeunes sont multiples et n'interpelle pas seulement les membres de la communauté journalistique. Enseignants, politiciens, intellectuels, tous brandissent leur diagnostic, une faible compétence informationnelle ou leur bouc émissaire, la dépendance aux écrans et le déficit d'attention pour expliquer cette désertion ou cette indifférence devant les médias d'information. Certes, les enquêtes
des dernières années nous apprennent qu'en contrepartie, les plus jeunes s'informent majoritairement par les réseaux sociaux, mais ces outils viennent avec des défis relatifs à la désinformation, au cynisme et à la suspicion. En tout cas, je pense que c'est un article important. Alors, en fin de compte, si on veut vivre en démocratie, il faut avoir accès à de l'information qui est solide, là, qui est vérifiée. Puis aujourd'hui, tout est sur le même pied d'égalité. Et là, des fois, il y a un manque d'éducation. Comment aborder l'information? Avant, c'était simple. On lisait les journaux, on écoutait la télé. Maintenant, il faut savoir relativiser, savoir hiérarchiser la qualité des informations qu'on utilise. Alors, je vous recommande cet article-là dans le Devoir de mercredi. Pour changer le monde, il faut d'abord le comprendre. Il y a aussi en kiosque toujours le dernier Philosophie Magazine. Qui est intéressant, que, en tout cas, j'ai bien aimé, comment cultiver la bonne humeur. Il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Simone Veil, c'est une personne, on peut dire une philosophe engagée qui vivait là, dans les années 30-40, qui est décédée jeune, était très engagée politiquement. En tout cas, si vous voulez connaître un peu son parcours, c'est toujours dans le dernier Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement. Puis, je vous rappelle aussi toujours, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a un hors-série Science et vie sur le plastique. Le plastique, début de la fin, c'est très bien fait. Tout le numéro est consacré au dossier du plastique. Et avec des solutions, il y a quand même des choses... Des choses qu'on pourrait dire qui peuvent nous donner un peu d'optimisme. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Comment réduire le plastique? Les États sont très conscients que ça ne peut pas continuer comme ça, notre production de plastique. On devra la réduire ou trouver une façon de moins polluer l'environnement avec les plastiques. Donc, c'est en kiosque actuellement, hors série, Science et vie, sur le plastique. Aussi, pour ceux que ça intéresse, dernière chose, c'est indirect, là, mais c'est un numéro, la revue s'appelle « Trésor de la littérature », c'est sur Saint-Exupéry, l'écrivain aviateur. Saint-Exupéry, c'est comme un littéraire, c'est un peu comme Montaigne. C'est un littéraire, mais qui, dans le fond, était philosophe. Ses textes sont très beaux. Puis, dans ce numéro-là, c'est plutôt une sorte de biographie pour comprendre qui était Antoine de Saint-Exupéry. Alors, c'est un numéro complet consacré à lui. La revue s'appelle « Les trésors de la littérature ». Alors, on prend une petite pause musicale. Et, dernière chose aussi, c'est vrai, le film « Les jours parfaits », qui est un beau film sur la simplicité volontaire, il a cessé d'être à l'affiche au quartier, qu'ils l'ont présenté vraiment longtemps, je pense que c'est presque 3 mois. Mais il y a un cinéma que je connais pas, qui est à Québec, qui s'appelle le cinéma Beaumont, sur la rue Saint-Vallier, en Basse-Ville, je suis jamais allé, mais... ils vont le diffuser à eux autres aussi la semaine prochaine. Alors, si vous allez voir ce qui est à l'affiche au cinéma Beaumont, puis peut-être pour certains la possibilité de découvrir une nouvelle salle, le film Les Jours Parfaits sera à l'affiche. Puis je vous passe en pause musicale, une pièce musicale tirée justement là, qui vient de la trame sonore de Les Jours Parfaits.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Alors, Jacques Sénécal, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, tu vas nous parler de Marcel Conche aujourd'hui.
Oui, je vais vous parler de Marcel Conche pour une deuxième fois. Je vais sans doute insister sur sa philosophie, sur sa métaphysique, en fait. La métaphysique, c'est une partie de la philosophie qui questionne... les grandes connaissances du monde, les réalités, les processus, en tant qu'il existe au-delà et indépendamment de notre expérience sensible que nous en avons. Le mot métaphysique vient de au-delà, méta, ça veut dire au-delà, au-dessus, physique, au-delà de ce qui est physique ou au-delà de ce qui est physiquement perçu. La métaphysique d'Aristote, par exemple, vient après son traité de physique. Et après la physique, il s'est intéressé aux principes, aux causes de la nature. Physique vient de physis, qui veut dire nature. Alors, la philosophie de Marcel Conche, la doctrine métaphysique de Marcel Conche, c'est une doctrine qui va donc considérer la nature comme étant la seule réalité, prise dans ce sens, évidemment, la nature prise dans son sens large, là, c'est la seule réalité. Et lui, pour lui, c'est considéré en même temps, je dois le dire, là, pour Marcel Conche, prendre la nature dans son sens large comme seule réalité, c'est considérer que le surnaturel n'existe pas, ou que le surnaturel n'est qu'une illusion. Et que la culture, bien entendu, fait partie de la nature. Alors, le naturalisme que Conche appuie, et que j'appuie aussi, considère que la nature est intégralement et exclusivement matérielle. Ça, c'est très épicurien, ça vient de Démocrite, la nature est faite d'atomes. Et il faudrait rajouter aussi que, en grec, le mot nature, c'est-à-dire physis, ça vient de fuin, qui veut dire croître, pousser, naître. Alors, quand on parle de nature chez les Grecs, notamment chez les Grecs qui ne sont pas stoïciens, là, ceux qui sont dans la veine de Démocrite, d'Héraclite et d'Épicure, pour eux, la nature, ça s'oppose à la technique ou à l'art. La nature, c'est comme si les choses se faisaient tout seules, naturellement, ce qui s'oppose, bien entendu, à ce qui est fait par l'homme. Alors, c'est pourquoi on distingue en grec physis, nature, de techné, qui veut dire une chose faite par l'homme. L'espèce humaine ou l'essence humaine, comme la nature, va se construire, va évoluer. Et sur ces sujets métaphysiques-là, bien, il y a beaucoup de débats depuis le début de la philosophie. D'ailleurs, personnellement, quand je donne des cours de philosophie et que j'aborde la métaphysique, je définis, moi, personnellement, la métaphysique comme une discipline où les questions posées n'ont pas de réponse. Alors, c'est pourquoi chez les philosophes pragmatiques, chez les sages, en fait, chez les sages orientaux, plus précisément, on ne fait pas de métaphysique parce qu'on ne se pose, on ne se pose pas de questions qui n'ont pas de réponse. Alors, ça, c'est un peu le point de vue que je vous donne. Alors, Marcel Conche est donc plus proche des Grecs, mais on verra plus tard, justement, que en tant que simplicitaire, il s'approche de tous les sages, qu'ils soient grecs ou qu'ils soient chinois, peu importe, quand on est sage, il y a qu'une, il y a peu de façons de l'être. La philosophie, donc, de la nature, pour Marcel Conche, c'est donc une philosophie qui n'est pas idéaliste. Quand on dit qu'une philosophie est idéaliste, c'est que les idées ont priorité sur le réel sensible ou le réel matériel. Par exemple, quand on dit que les idées mènent le monde, ben ça, c'est idéaliste. Ou encore chez Platon, quand on dit que le monde de l'idéal est le modèle parfait du monde matériel, le monde matériel étant le monde terrestre qui est imparfait, ça, c'est une approche idéaliste. Mais chez Conche, cette approche, l'approche métaphysique n'est pas idéaliste, mais il ne se dit pas non plus matérialiste parce que, et pour lui, la matière, la notion de matière lui paraît insuffisante. Et effectivement, encore aujourd'hui, au 21e siècle, on cherche profondément ce qu'est la matière. Alors, Marcel Conche n'est donc un philosophe ni idéaliste, ni vraiment matérialiste, et c'est pourquoi il se qualifie de philosophe naturaliste. Et dans son naturalisme, Marcel Conche soutient ce que les Grecs appelaient la physis ou la physique. Par exemple, il est du côté d'Héraclite qui affirmait que tout change. Il est du côté de Démocrite qui affirmait que tout est atome, même si on ne sait pas exactement de quoi sont faits les atomes. Il est aussi du côté d'Épicure qui affirmait que la nature est multiple et créatrice. Alors la nature, donc, au sens le plus englobant du terme, c'est pour lui la totalité des choses, l'univers infini et indéfini, contient une multitude de mondes. Ça, c'est très épicurien. Dans notre monde, il y a plusieurs mondes, et ces mondes sont dissemblables et incommunicables. Ils ont leur vie intérieure. Par exemple, le monde de la chenille, le monde de l'abeille, le monde du castor sont des mondes dissemblables, incommunicables. Ils ont leur vie intérieure, leur solitude. Et c'est pourquoi nous affirme Conche dans son livre, dans ses livres sur la philosophie de la nature, la solitude est le fondement de la condition des vivants. La solitude est le fondement de la condition des êtres humains. Il existe donc une infinité de mondes. La nature est donc une multiplicité et une totalité. Et Conche nous avoue cette espèce d'émotion qu'il a toujours en lui. Il dit ceci: « Quand j'écoute la nature, je suis partagé entre le sentiment de la multiplicité et celui de l'unité fondamentale. » L'absolu, pour lui, c'est la nature. La nature est donc à comprendre, non comme un enchaînement de causes, mais comme une sorte d'improvisation. C'est pourquoi il dit que la nature est créatrice, la nature est poète, la nature improvise, la nature produit des choses surprenantes. Alors, c'est un peu la philosophie de la nature qu'on retrouve chez Marcel Conche, et on pourrait faire un parallèle avec la philosophie de la nature qu'on retrouve chez certains Grecs. On pourrait en parler, si tu veux, après la pause, si à moins que tu aies des commentaires, Jacques,
ben oui, ben,
sur ce que je viens de te dire. Mais j'ai pas, c'est entendu que je vais vous parler de la nature chez les Grecs et aussi de la sagesse de Marcel Conche, qui est proche de la simplicité volontaire.
Ben, puis de Taureau. Puis Taureau est. Ben, c'est sûr que Marcel Conche est après Taureau. Mais Taureau était certainement épicurien, mais aussi un peu stoïcien. Et Taureau aussi, dans les dernières parties de sa vie, était aussi mystique. Et il cherchait l'espèce de. Il disait les choses les plus élevées. C'est ce qu'il cherchait, là, les choses les plus élevées de l'être. Mais sans tomber. Il parle pas. Jamais il va parler de Dieu, mais il s'approche de quelque chose d'absolu, là.
Ouais.
Je sais pas si Marcel Conche va là dans sa métaphysique. Je pense que c'est plus stoïcien, mais. Comme tu disais, les bouddhistes, quand on demandait à Bouddha des questions par rapport à ce que Dieu existe, puis tout ça, et Bouddha, justement, il répondait, ça, c'est des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre.
Moi, c'est ça.
Fait qu'il dit, je peux pas en parler. Fait qu'il disait ni oui, ni non. Ni oui, ni non.
C'est ça.
Ça sert à rien. Il disait, comme si c'était, ça sert à rien de parler.
Non, les philosophes orientaux se prononcent pas sur la métaphysique, c'est-à-dire sur des questions qui n'ont pas de réponse.
Ouais.
Fait qu'il n'y a moins de temps pas s'aventurer là-dedans. Puis, je dois dire, on pourra le voir tout à l'heure, on pourra dire que chez Marcel Conche, justement, il y a quelque chose qui n'est pas stoïcien, parce que pour les stoïciens, la nature est un ordre, c'est un cosmos. Alors que chez les épicuriens, ou chez Démocrite, ou chez Héraclite, tout change, tout se transforme. Il y a des cycles de discorde et d'harmonie, tu comprends? Il y a une espèce de chaos fondamental qui est à l'origine de l'ordre. Alors, il y a donc une distinction à faire importante entre la vision générale, la vision métaphysique des stoïciens, pour qui la nature est un ordre, un cosmos, et les autres philosophes grecs. Faut pas oublier que les Grecs ne pensent pas tous pareil, là. Et d'autres philosophes grecs qui considèrent que, justement, nous sommes peut-être dans une période de discorde, de désharmonie, de turbulence, de chaos. Et ce chaos-là, est la cause et propice à générer de l'harmonie, de l'organisation. T'sais. On pourra revoir ça en détail après la pause musicale, s'il y en a une.
Oh, il y en a une, justement. On s'en va en pause musicale, puis on poursuit au retour de la pause musicale.
Oui, d'accord.
J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain, un bon terrien, épicurien, charmant voisin, je vous le dépeins deux points. C'est un gars spécial sans aucun doute, à l'occasion fait les manchettes. Mais il se prend pas pour une vedette, pas d'autres questions, un point c'est tout. Je vois bien comment il fonctionne, la vie c'est faite pour se faire du fun. C'est un prince sans rire qui l'aurait cru, près de chez moi, un philosophe en plus. J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain, un bon terrien, épicurien, charmant voisin, deuxième voisin. Pour savoir s'il se tient dans le bout, je lui réserve quelques cigarettes. Avec un carton d'allumettes, il va les fumer jusqu'au bout. Je lui laisse ça entre deux portes, c'est pas grave si c'est pas sa sorte. Pis s'il en manque, c'est comme un dû.
Comment ça se fait qu'il en reste plus?
J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit. Un
un bon terrien, épicurien, charmant voisin. Écoutez bien, je suis prêt à subir son courroux en vous parlant de choses indiscrètes. Il y a une nouvelle blonde pas mal coquette, est-ce que cette fois c'est le bon coup? C'est tout à fait dans ses manières de prendre soin d'une célibataire. La faire entrer dans mon fan club, va-t-il me faire encore de la pub? J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin, un trifluvien. Ça pourra pas faire de jaloux, car il est pas seul de sa braquette, ne laissant personne en disette, rendant service un peu partout. Faut que je m'arrange pour que ça dure, qu'il n'y ait pas de chicane de clôture. Comment veux-tu être déçu avec autant d'atomes crochus? J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin de mon refrain. C'est-il possible d'être assez fou pour le décrire dans sa palette? Ça restera pas sur une tablette, encore une chanson à son goût. Il y a de grosses chances de se reconnaître, c'est pour ça que je veux le voir apparaître. Qui me demande d'un air ingénu.
Comment on l'entend depuis le début?
J'ai un bon voisin qui reste pas loin, et deuxième voisin qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin.
C'était Jean-Marc Aurel. J'ai un bon voisin, voisin épicurien. Avant ça, on avait eu, comme vous disiez, dans la trame sonore du film Les Jours Parfaits, c'était Nina Simone, Feeling Good. Puis avant ça, plutôt dans l'émission, c'était de l'album de Richard Séguin, Retour à Walden, Devant moi la vie. Alors, Jacques.
Oui. Alors, je continue avec Marcel Conche. Marcel Conche qui s'est beaucoup inspiré de Montaigne, de Spinoza, d'Épicure, de Pierron, beaucoup chez les Grecs. Et il a travaillé fort sur les Grecs pré-socratiques. Notamment, vous avez l'Héraclite. Alors, il écrit de très bons livres, d'ailleurs, sur les philosophes grecs. Et pour lui, justement, sa conception de la nature est très proche de celle qu'on retrouve chez les Grecs, chez les pré-socratiques, qu'on appelle. Et ces pré-socratiques-là, justement, je pense à Parménide, à Héraclite, à Empédocle, pour eux autres, le tout, c'est la réalité. Puis l'homme, ben, est une production de nature, puis la nature se dépasse elle-même dans l'homme. Alors, que valent, se pose la question, les philosophes grecs, que valent les lois humaines par rapport aux lois de la nature? Ça, c'est ceux qu'on appelle les naturalistes grecs. Que valent les lois humaines par rapport aux lois de la nature? Alors, il y a donc des doutes. On se pose des questions sur les lois humaines. Pour eux, les lois de la nature sont préférables, mais il y a beaucoup d'irrationnel dans la nature. On ne connaît pas 5% de la nature. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'on connaît à peine 5% de la nature. Il y a donc de l'irrationnel. Mais cet irrationnel-là est réel. Il fait partie de la nature. Et la nature, c'est pourquoi elle est, je le disais tantôt, surprenante. la nature nous surprend dans sa production, dans ses générations. Et autre chose aussi qui est important chez les Grecs qui ne sont pas stoïciens, c'est que le désordre, le chaos, je pense en Pédocle, par exemple, produit de l'ordre. Et l'ordre, l'harmonie, n'est un cas particulier du désordre. Alors, il y a donc des cycles éternels, je pense à Empédocle ici, sur lequel Conche travaille. Il y a donc des cycles éternels et on serait dans une période de discorde et non pas dans une période d'harmonie. Et la nature, justement, va créer, va générer de l'harmonie, de l'ordre, du cosmos, mais pour le moment, elle est dans une sorte de chaos, de désordre, de turbulence. Alors, évidemment, pour Conche, comme pour ces philosophes-là, on ne peut pas préjuger de ce que la nature est capable de produire. Le hasard, parce que c'est très important, la notion du hasard chez Épicure, le hasard peut produire toutes les combinaisons possibles. Et une petite phrase qui, d'après moi, témoigne bien de la philosophie de Conche, il nous dit ceci: l'esprit est la nature invisible et la nature est l'esprit visible. C'est donc dire qu'il y a du doute, de l'inconnu, de l'irrationnel, de l'incompréhension qu'on a toujours vis-à-vis ce tout qui est la nature. Cette nature-là qui est infinie. Elle est infinie puisque elle est infinie puisqu'elle est. Elle n'est que nature. Il n'y a pas d'autre chose. Tout. Mais cette nature-là est éphémère. La nature est essentiellement devenir. Le devenir, et ça c'est très héraclitéen, le devenir est l'essentiel de la nature. La nature, c'est le tout de la réalité. Quand je dis que c'est le tout de la réalité, c'est que la nature est à la fois infinie, la nature est éternelle, la nature est devenir. La nature est faite d'apparences, de toutes sortes d'apparences qui fuient. D'apparences, comme dirait Piron. Derrière les apparences, il y a d'autres apparences, et ainsi de suite. L'apparence, contrairement à ce que véritablement est essentiellement changeante. Si la nature est changeante, c'est parce qu'elle est faite d'apparences. Ça, c'est la philosophie de Piron et c'est très proche de la philosophie de Conche concernant la nature. Donc, la nature serait finalement un changement. Tout change. La nature est infinie sous l'aspect de l'espace. La nature est infinie sous l'aspect du temps, sous l'aspect du nombre, comme dirait Pythagore. La nature est infinie en diversité. Elle est infinie en complexité. Infinie en fécondité puis en créativité, puis elle est infinie aussi en incompréhensibilité. La nature, donc, n'est pas susceptible de se prêter à une vue d'ensemble. Sauf chez les stoïciens, bien entendu, qui considèrent que la nature est un ordre. Pour les philosophes grecs non stoïciens, la nature n'est pas susceptible de se prêter à une vue d'ensemble. La nature s'épuise dans une multiplicité d'aspects. Et la nature, c'est aussi le tout. Rien ne limite ce tout-là. Il n'y a pas de place pour une transcendance. Il n'y a pas de place pour un Dieu, par exemple, qui serait autre que le tout. Alors, si Dieu existe, nous disent Conche, si Dieu existe, le tout ne serait pas le tout. Il y aurait autre chose que le tout. Et chez les Grecs, il y avait une image qui montrait bien l'infini de la nature, qu'on appelle le paradoxe du bout de l'univers. Et imaginons un archer, quelqu'un qui s'en va au bout du monde, puis au bout de tout, au bout du réel, et cet archer-là tire une flèche. Où ira-t-elle? Ça, c'est la question que se posent justement les philosophes grecs concernant l'infini, l'infinité de la nature. on ne peut pas aller au bout du monde. Et si on va au bout du monde, si on tire une flèche, on tire une flèche toujours dans la nature, on tire une flèche toujours dans le réel. Alors, c'est un peu la philosophie de Marcel Conche. Alors, vous voyez que c'est très proche des présocratiques. Et pour terminer sur Marcel Conche, avant que je vous donne quelques éléments de lecture, là, pour terminer sur Marcel Conche, c'est entendu que pour lui, le naturalisme est une sagesse. Puis cette sagesse-là, bien, elle est proche de la simplicité volontaire. Le sage, l'homme sage ou la femme sage, simplifie sa vie. Mais une vie simple, ce n'est pas une vie simpliste. La sagesse ou les sagesses naturalistes sont tragiques. Il y a donc du tragique dans la vie. Pourquoi le tragique? Parce que, justement, on ne peut pas fuir devant la vie. On doit, tout en ne pouvant pas fuir devant la vie, on doit refuser les plaisirs faciles, risqués, refuser l'abandon aux émotions, préférer les situations où on est actif, où on a l'initiative, à celles où l'on est passif, receveur ou consommateur. Il faut préférer les occasions d'aimer, d'admirer, et aussi, évidemment, voir le contraire de ce qui s'appelle aimer et admirer. Il faut s'adonner à la beauté, faire toujours ce que l'on peut faire de mieux, en vivant sans aucun stress, mais pourtant sous haute tension. Alors, on voit tout de suite là, qu'il y a du tragique dans la vie. Alors, ce tragique-là, c'est que le sage est toujours en chemin. Ce tragique-là signifie que la vie est mortelle, la mort est une nécessité, la mort est obligatoire, mais malgré cette nécessité, malgré la mort, il faut vivre, aimer la vie et agir pendant cette vie le plus possible. Alors, il y a donc quelque chose de tragique dans la vie humaine. Il y a donc quelque chose de tragique dans la sagesse. Il y a quelque chose de tragique dans la simplicité volontaire, puisqu'on vit simplement. On sait qu'on va mourir, mais on jouit de chaque instant. À propos...
Mais Jacques, oui. C'est que on approche, il nous reste 4 minutes.
Oui, mais je termine. Je termine en vous disant que sur la solidarité, il y a aussi beaucoup de mots à dire sur Marcel Conche, parce que la simplicité volontaire, c'est aussi quelque chose qui se fait solidairement. Et je termine en disant justement qu'il y a de bonnes lectures. Je propose des lectures à ceux qui nous écoutent, des bonnes lectures en philosophie. Je vais d'abord vous parler d'un livre qui s'intitule « Une fin de siècle philosophique ». C'est un livre de Sébastien Charles, dans lequel il nous présente Comte-Sponville, Conche, Ferry, Lipovetsky, Onfray, Rosset. C'est un livre qui s'intitule donc « Une fin de siècle philosophique ». Et c'est Sébastien Charles qui écrit le livre. C'est un très bon livre. Ensuite, il y a de Marcel Conche, Confession d'un philosophe. Ça, c'est excellent, puisque c'est une conversation qu'il a avec André Comte-Sponville. C'est une lecture stimulante. Il y a plusieurs autres livres, bien entendu, de Conche qui sont importants. Il y a, par exemple, le fameux livre qui s'intitule « Montaigne ou la conscience heureuse ». C'est un des meilleurs livres sur Montaigne. Il y a aussi « Philosopher à l'infini » de Marcel Conche. Ce sont les livres de Marcel Conche, la plupart du temps, sont édités aux presses universitaires de France. Et je termine en vous disant que Stéphane Zweig, Zweig, Z-W-E-I-G. Stéphane Zweig est un écrivain autrichien qui a écrit beaucoup qui a fait beaucoup de biographies. Il a écrit 2 livres que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Il y en a un qui s'appelle « Homme et destin » au pluriel. Alors, il y a là-dedans de grands hommes, par exemple, je sais pas, il parle de Nietzsche, il parle de Mahler, il parle de Freud, il parle de docteur Albert Schweitzer, enfin, les grands humanistes des dernières années. Et vous avez un livre aussi, toujours de Stefan Zweig, qui s'intitule « Les très riches heures de l'humanité ». Ce sont des moments particuliers où les êtres humains ont fait des découvertes, ont fait des actions surprenantes, extraordinaires. Et Stefan Zweig nous les décrit avec une pertinence inouïe, avec beaucoup de style. Et je propose ce livre-là de Stefan Zweig, Les très riches heures de l'humanité. Alors, c'est à peu près tout, Jacques.
Bon, écoute, c'était vraiment le fun. Moi aussi, j'ai une suggestion de lecture pour nos auditeurs cet été. J'en ai lu plusieurs extraits pendant les émissions, mais j'ai à peine effleuré là, le corps du livre. Là. C'est « Taureau Yogi des Bois » de Colette Poggi, P-O-G-G-I, et Émilie Poggi. Puis Madame Poggi, c'est une experte en philosophie indienne de l'Inde. Là. Et elle fait un parallèle entre l'œuvre de Taureau, puis la philosophie indienne. Elle dit que Taureau reflète très, très bien la philosophie indienne dans ses écrits. Alors, c'est pour ceux qui s'intéressent, Taureau, Yogi des Bois, aux éditions Équateur. Alors, la saison se termine comme ça, Jacques.
Oui.
Je te remercie pour, encore une fois, cette année, ta collaboration mensuelle.
Ça me fait plaisir, Jacques. Puis j'espère que j'aurai encore une très bonne santé pour pouvoir poursuivre la saison prochaine.
Bien, nous autres aussi. Ça fait que t'es bienvenu, t'es invité pour notre prochaine saison qui recommence là, après la fête du travail.
C'est bien, parfait.
Alors, bien, je te souhaite bon été, puis bon été à tous nos auditeurs, puis on se revoit en septembre.
C'est d'accord, Jacques. À l'année prochaine.
Bye-bye. Bye.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi, en rappel les mardis 16h, sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.